Bonsoir, la RDC vient de rater l'occasion de se connecter à la fibre optique sur 14 pays à connecter. Seule la RDC ne l'est pas encore, alors que la République du Congo et le Togo ont été officiellement connectés pour la première fois. Comme cause, la Société congolaise pour ses télécommunications, ex-OCPT, évoque le retard dans la construction du point de connexion. Comment analyser cette situation ? Pour en parler, nous allons recevoir dans un tout petit moment Placide Mbatika, administrateur directeur général de la Société congolaise pour ses télécommunications, SCPT, Tatin Sundiani, économiste et cadre de l'Union pour la Nation congolaise, UNC. Lui est déjà dans ses studios. C'est bienvenue Marie Bakoumania, directeur du desk économie au groupe de presse Le Potentiel. Bonsoir Monsieur Bakoumania.
Bonsoir Alain.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, qui êtes déjà très nombreux comme d'habitude à nous envoyer vos réactions. Francine Mwanda qui nous écrit des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce retard? J'aimerais en connaître les raisons solides. Vraiment, c'est triste de constater que la RDC a toujours eu ce genre d'excuses quand il s'agit d'aller de l'avant. C'est vraiment désolant de voir que les pays potentiellement moins riches se soient connectés à la fibre optique et pas le nôtre. Moïse Banza Mukalai de Manono Katanga. La RDC est un pays de surprise. Comment expliquer qu'un pays modernisé mais qui manque la connexion à la fibre optique? Nous voulons que les œuvres de la modernité soient palpables car développer un pays, c'est une question de volonté politique. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La RDC vient de rater une occasion de se connecter à la fibre optique. C'était le 15 mai dernier en Afrique du Sud, à l'occasion du lancement du projet WAX, West African Submarine Cable System. Ce projet du géant de télécom MTN vise à connecter 14 pays africains à la fibre optique pour utiliser Internet à haut débit. Sur les 14 pays africains à connecter, seule la RDC, qui devait prendre sa connexion pour la première fois à l'instar de la République du Congo et du Togo, ne s'est pas rangé en ordre utile. L'administrateur délégué général de la SCPT, Société congolaise des télécommunications et des postes, qui avait assisté à cette rencontre en Afrique du Sud, promet la connexion de la RDC dans 2 mois. On écoute cet entretien qu'il a accordé à Daniel Tambinzoni.
Nous sommes allés assister à un lancement du projet WAX, WAX qui veut dire West African Cable System. Donc il y a les câbles et la fibre optique qui quittent Londres, qui longe la côte ouest de l'Afrique, qui va jusqu'à Cape Town, long de 14 600 km, et qui ça a coûté une bagatelle de 600 millions de dollars. Donc on a fait un lancement où on a pris 14 pays en charge qui sont connectés. Dans ces projets, il y a 3 pays africains qui devaient être connectés pour la première fois, entre autres la République populaire du Congo, la RDC et le Togo.
Et c'est ce qui était fait, la RDC est connectée, le Congo, Brazzaville et le Togo, et sont-ils connectés?
Les 2 pays ont été connectés, donc le Togo, sur les 14 pays, un seul pays n'a pas été connecté, c'est la RDC. Ça n'a pas été connecté parce que nous sommes un peu en retard par rapport à la construction du point d'atterrage qui s'avère être le port de sortie de tout, des connexions de la RDC à ces fibres optiques dont je vous ai parlé.
Monsieur l'ADG, la RDC a déjà raté plusieurs échéances comme ça. Toujours les travaux de construction de cette centrale-là ne se terminent pas. Les travaux vont aller comme ça jusque quand?
On peut vous donner la garantie que cette fois ici, la RDC sera prise en charge. Nous sommes convaincus que dans les deux mois qui suivent, les travaux seront finis. Nous avons l'avantage cette fois qu'il y a 3 vecteurs qui concordent. Il y a la volonté politique qui est très engagée à ce que ça marche. Il y a la compétence de l'exécutif de la SCPT. Il y a aussi la volonté de tous les employés de la SCPT pour que ça marche. Donc, fin août, nous serons déjà connectés.
En quoi la participation de la RDC était importante à cette grande réunion africaine de l'Afrique du Sud qui a consisté à procéder au lancement officiel de WAX, puisqu'elle rate encore l'occasion de se connecter effectivement comme les autres pays?
Notre présence en Afrique du Sud a été très très importante dans le sens que nous sommes allés visiter le point d'atterrage de Eisenfontein, donc l'Afrique du Sud. De 2, nous avons tenu à rassurer nos partenaires donc, qui sont membres du consortium WACS et la SCPT est partie prenante. Et nous sommes engagés, et nous avons tous les moyens maintenant, l'État congolais a mis tous les moyens possibles pour que nous soyons pris en charge par les projets WACS. Donc, ils sont rassurés parce que nous avons manqué trop de rendez-vous, nous avons été trop absents dans les réunions de WACS. Maintenant, nous sommes déterminés et ils sont satisfaits que nous sommes partie prenante du consortium et du projet WACS.
Donc, pour les pays qui sont déjà connectés, ils peuvent utiliser l'Internet et d'autres services à partir de la fibre optique, c'est ça?
À titre d'exemple, la République populaire du Congo est connectée depuis les 11 à midi. Donc, ils peuvent déjà observer le trafic et l'accès à l'Internet, la facilité avec laquelle ils peuvent accéder à l'Internet. Donc, nous avons une option pour le moment d'envoyer notre trafic à travers la République populaire du Brazzaville via Pointina pour atteindre les câbles sous-marins.
Monsieur Placide Mbatika, je vous remercie.
C'est moi qui vous dis merci.
Voilà, là c'était l'entretien que notre collègue, confrère Daniel Tambinzoni avait accordé, fait avec Placide Mbatika, administrateur directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT. La réalisation me signale qu'on a quelques difficultés à le joindre. S'il nous suit, s'il peut nous permettre de le joindre, ce serait bon pour la suite de l'émission. Mais je vous prie de suivre maintenant d'autres précisions sur le dossier fibre optique avec Kevin Couté.
La RDC demeure à la queue des nations connectées à la fibre optique alors que le câble sous-marin qui relie le pays à l'Europe a été posé à Mwanda, ville côtière de l'Ouest, en février 2011. Depuis cette date, les querelles se sont succédées entre syndicalistes et l'ancien comité de gestion de la SCPT sur l'entité qui devrait gérer les revenus que générera l'exploitation de cette technologie. En juin 2011, Alphonse Lukusa, le président d'un syndicat de la SCPT, affirmait à Radio Kapi que les revenus attendus de l'exploitation de la fibre optique était de l'ordre de 30 à 40 millions de dollars américains par mois. Une affaire de gros sous. La fibre optique s'avère utile en RDC, un pays grand comme 4 fois la France, mais qui a l'un des taux de pénétration d'Internet le plus faible au monde. En RDC, l'Internet reste encore un bien élitiste, mais si le pays n'est pas connecté à la fin du mois d'août, il y a une élite qui risque d'être pénalisée. C'est celle qui se réunira du 12 au 14 octobre prochain à Kinshasa, dans le cadre du 14e sommet de la francophonie. Une rencontre qui nécessitera, on s'en doute bien, de l'Internet à haut débit.
Merci Kevin Couté. Bienvenue Marie Bakoumania. Je rappelle que vous êtes directeur du desk économie au groupe de presse Le Potentiel. La RDC a raté une occasion de se connecter à la fibre optique sur 14 pays. Seule la RDC n'a pas été connectée. Comment vous analysez cette situation?
Mais le contraire m'aurait surpris parce que la marche vers la mise en service de la fibre optique a été chaotique. Les forces mafieuses tapis dans les instances, les hautes instances du pays, avaient tout fait pour qu'ils puissent reprendre le contrôle de la fibre, de la gestion de la fibre optique. Et ils ont multiplié ainsi des entraves sur la marche de cette réalisation et ont eu gain de cause en obtenant notamment ce retard dans la mise en service de la fibre optique prévue initialement pour le 9 juin, selon le vice-premier ministre en charge de PTT, l'ancien premier ministre intérimaire Koya Gallo, qui avait effectué un déplacement à Mwanda. Tout est démenti en ce moment parce que la RDC n'a pas été connectée. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est ça la vraie question. On en est arrivé là parce qu'il y avait certains dirigeants congolais qui avaient estimé que le câble à fibre, la gestion de la fibre optique devait revenir à une entreprise à créer. Cette entreprise devait s'appeler Congo Cable. Il y a eu une correspondance de l'ancienne ministre du portefeuille, Madame Janine Mabunda, qui avait convoqué les opérateurs de la téléphonie cellulaire opérant et vont ici au pays pour que l'on puisse créer cette société. Mais là où les choses, il y a des couacs, c'est lorsque l'on sait que c'est l'État congolais qui a sorti le gros des moyens financiers, notamment les 12 millions qui ont été empruntés auprès d'une banque commerciale de la place, notamment également le prêt que les Chinois ont accordé à la SCPT, à la République, pour notamment la formation des ingénieurs chargés de ce travail. On s'était posé la question, l'opinion, tout comme les syndicalistes de cette société, s'était posé la question de savoir pourquoi faire appel au privé en ce moment où à la SCPT il y a la compétence, le DG vient de le rappeler, il y a actuellement des personnes compétentes, des ressources humaines compétentes pour faire face à la gestion de la fibre optique. Pourquoi associer les privés seulement lorsqu'il faut se mettre à table, lorsqu'il faut être au festin, on associe les privés, alors que quand il fallait mettre la main à la poche, les privés n'étaient pas associés. Dans nos enquêtes que nous avons menées au niveau du potentiel, on a également constaté qu'il y avait des forces, notamment, qui proviendraient du relais. Je préfère les appeler ainsi, le relais de la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale a également un projet d'installation de la fibre optique qui devrait être distribué à travers la ligne Ingachaba, et ceux-là, ils ont préféré torpiller la marche du projet WACS, du consortium WACS, au détriment, au profit plutôt, du projet piloté par la Banque mondiale. Mais heureusement, jusque-là, il y a un changement, et effectivement, il y a cette conjugaison de ces trois facteurs, la volonté politique qui était maintes fois exprimée par les chefs de l'État, et chaque fois qu'il tapait du poing sur la table, le dossier avançait, mais chaque fois qu'il était un tout peu distrait par ces mêmes opérateurs politiques, les dossiers piétinaient. Et il y a également la compétence au niveau de la SCPT avec les formations que les ingénieurs ont reçues de la Chine. Et enfin, il y a cette volonté de la SCPT de ressusciter à travers la fibre optique qui va, il faut le reconnaître, qui va renflouer les caisses de cette société d'État au minimum 20 millions de dollars mensuels. Je ne vois pas une société étatique actuellement réaliser des pareils recettes.
Donc, à bien vous comprendre, bienvenue Marie Bakoumania, la RDC serait victime de ces querelles internes.
La RDC serait victime des turpitudes de ses dirigeants. Les turpitudes des dirigeants qui ont eu à piloter ce dossier. Moi, je m'interroge même pourquoi est-ce que le procureur général n'ouvre pas, n'initie pas des informations judiciaires pour qu'on comprenne comment est-ce que cette honte peut habiter la République. Sur 14 pays, nous sommes les seuls à ne pas construire une station d'atterrage, quelque chose de 600 mètres carrés, si je ne m'abuse pas. J'ai été voir en Mwanda ce que ça signifie cette station d'atterrage, mais c'est juste une maison. Il y a eu 3 millions de dollars qui ont été dépensés pour cela, et on a, lorsqu'on était arrivé à échéance, on s'est rendu compte que c'était pas construit selon les normes. Comment est-ce qu'on a perdu tout ce temps-là, on a perdu 3 millions de dollars, un pays en crise comme la RDC, 3 millions de dollars, on peut construire une école avec cet argent, comment est-ce qu'on a perdu cet argent et on a carrément cassé la construction qu'on avait à Mwanda, et on est en train de reconstruire, et évidemment.
Et il faut signaler que c'était depuis février 2011 que ces travaux ont été lancés.
Exactement. On a pris du temps, on a traîné les pieds, des querelles entre l'ancien ministre, l'ancien vice-premier ministre, le ministre des PTT Bouloupi et les comités de gestion de l'époque. Les uns voulaient Alcatel, les autres voulaient Smart. Il y a eu cette querelle-là qui a pratiquement laminer tout le temps qui devait être consacré à ce travail. Et finalement, au final, nous sommes les derniers de la classe, nous sommes la risée du continent, parce qu'on a été incapable de construire 600 mètres carrés pour recevoir du matériel en vue de connecter la fibre optique qui passe déjà par la RDC à 30 km au niveau de l'océan.
Tati Nsungani, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes économiste et cadre de l'Union pour la Nation Congolaise UNC. Vous venez de suivre l'analyse de Bienvenue Marie Bakoumania. Quelle est votre réaction?
J'ai d'abord une première réaction. Je me suis posé la question de savoir ce que la délégation congolaise est allée faire en Afrique du Sud. Ça, je pense en toute honnêteté, il y a des frais d'émission qui ont été déboursés pour que des officiels congolais puissent aller en Afrique du Sud pour, en quelque sorte, j'allais dire, servir de moquerie.
Se ridiculiser.
On a été plus que ridicule dans cette affaire. J'aimerais également préciser que le gouvernement congolais a déboursé 25 millions de dollars, ce qui est quand même important pour adhérer au consortium W, ACS, comme on l'a si bien dit, c'est-à-dire West African Submarine Cable System, c'est-à-dire, comme vous l'avez expliqué, le processus qui aurait permis à notre pays de bénéficier de cette fibre optique. Il faut aussi, je pense, souligner que la fibre optique, est une technologie qui permet le transfert de l'information à grande vitesse. J'aimerais également souligner à l'intention de mon ami bienvenu que la société Smart qui a bénéficié de la firme Smart qui a donc bénéficié de 12 millions de dollars. Il a parlé de 3 millions, c'est 12 millions de dollars, excusez-moi, a empoché cet argent et a disparu. Il faut le relever. Ces 12 millions de dollars ont été mis à la disposition de ce projet par le gouvernement congolais. Et que fait-on ? Il y a une entreprise qui empoche 12 millions de dollars, qui disparaît parce que, comme on l'a dit ici, il y avait des querelles, disons, entre l'ancien vice-premier ministre et le comité de gestion de l'OCPT, SCPT, pour moi le nom ne change pas puisque les réalités restent les mêmes. Mais cet argent-là, monsieur le journaliste, pour la station d'atterrage, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à tout cela? Et la honte. Moi, aujourd'hui, j'ai un sentiment de honte par rapport à ce qui se passe quand on sait qu'au moment où nous vous parlons maintenant, le Congo d'en face bénéficie de cette technologie à haut débit parce qu'ils ont été sérieux dans la gestion de ce projet. Et lorsque le directeur général de la société congolaise de Poste et Télécom dit que d'ici fin août, nous serons connectés. Sur base de quoi il parle? Parce que techniquement, sur le terrain aujourd'hui, nous sommes à 2 mois de cette échéance. Sur le terrain, techniquement, on ne peut pas dire qu'on est optimiste. Je pense même qu'on serait quand même tenté d'être pessimiste parce que les données sur le terrain nous renseignent que techniquement, nous ne sommes pas en mesure de, disons, d'être connectés. On va continuer avec les anciens systèmes, les fils de cuivre. Alors que c'est dépassé, c'est cette histoire. Et c'est depuis longtemps que nous avons tiré il n'y a pas que nous, des opérateurs politiques, il y a aussi des opérateurs privés qui ont tiré la sonnette d'alarme. Lorsqu'on parle de la mafia, tout le monde sait très bien que autour de cette affaire, quand il y a de l'argent, eh bien, les gens, les appétits des gens s'aiguisent et se réveillent. Qu'a-t-on fait? Qu'est-ce que le gouvernement, je parle du gouvernement en tant que corps, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Qu'est-ce que le chef de l'État? Parce que le chef de l'État s'était personnellement impliqué dans cette affaire-là. Personnellement. Parce qu'il s'est rendu lui-même sur le site à Mwanda, à Nsanda pour être plus précis, qui se trouve à 29 kilomètres de Mwanda. Et il s'est engagé, le chef de l'État s'est engagé à ce que très rapidement, tous les pays qui sont concernés par cette technologie puissent bénéficier en même temps et en temps réel de cette technologie. Or, le 15 mai, en Afrique du Sud, on a lancé ce projet est une réalité et la RDC était là en tant que spectateur. Donc comment voulez-vous aujourd'hui, quand vous me posez une question comme celle-là, c'est un sentiment de frustration, c'est un sentiment de gâchis dès lors que l'argent est sorti. Et il ne faut pas oublier que cet argent a été fait sous prêt garanti par l'État. Quand on parle de prêt, cela veut dire quoi? Que les Congolais que nous sommes, vous et moi, c'est nous qui allons payer l'addition de cette affaire-là. Et dans quelques années, cette dette qui n'est que de 25 millions va peut-être se transformer en une dette de 50 millions, 500 millions, et on va encore nous parler d'un certain point d'achèvement. Voilà comment les dettes naissent, et finalement ça va devenir un boulet que le gouvernement va traîner et que nous allons transmettre à des générations qui sont en train de venir. Donc je pense que pour me résumer, techniquement, on n'a pas fait le point. Le directeur général n'a pas fait le point. Deuxièmement, le gouvernement aujourd'hui est incapable de nous donner un horizon crédible parce que techniquement, sur le terrain, les stations d'atterrage n'est pas encore prêtes. On est même pas encore en train de réaliser les débuts de reconstruction de ce qui a été mal fait. Et enfin, en troisième lieu, il n'y a pas de sanction. Il n'y a aucune sanction. Ce n'est pas normal. Quand les responsabilités sont clairement établies, quand il y a eu prévarication, c'est-à-dire il y a eu il y a eu, je ne vais pas parler de détournement parce que ce serait trop accuser les gens, mais les faits sont là qu'on cherche non seulement à sanctionner, mais aussi à corriger.
Voilà, la réalisation me signale que nous avons toujours beaucoup de mal à joindre M. Placide Mbatika, administrateur, directeur général de la Société Congolaise des Postes et Télécommunications. Bienvenue Marie Bakoumania, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu pour vous.
Matumaini Franklin de Bukavu au Sud Kivu. Apparemment, le gouvernement veut la modernité et son contraire. Car comment expliquer qu'à cette période où il ne parle et ne fait tout qu'en fonction de la révolution de la modernité, il n'est pas pris au sérieux cette question de la connexion de la RDC à la fibre optique et pourtant celle-ci serait une preuve, il maîtrise le contenu du concept de modernité et prône et qu'elle révolutionne son programme. Car la fibre optique même est une modernité. Mais malheureusement, notre pays a toujours été en retard des grands rendez-vous planétaires.
Bienvenue Marie Bakoumania.
Ben c'est clair, c'est suffisamment clair la réflexion de notre compatriote. Le gouvernement veut une chose et son contraire. Visiblement, il n'y a que Joseph Kabila qui comprend ce qu'il veut. Est-ce qu'il s'est fait entourer cette fois-ci des personnes, des personnalités qui vont l'aider à matérialiser ce qu'il souhaiterait, sa vision pour le Congo? Bon, j'ai comme l'impression que ça risque de se ranger encore une fois dans les tiroirs des vœux pieux d'avoir des collaborateurs à même de répondre à cette exigence. Bon, actuellement, on n'a plus les mêmes acteurs qu'on avait avant. On n'a plus Madame Mabunda au portefeuille. On n'a plus Bouloupi au PTT. On n'a plus l'ancien ADG de la SCPT. Je crois, si je ne me trompe pas, Luongo à la tête de cette entreprise. J'espère que les choses vont cette fois-ci aller de l'avant. Et le chef de l'État qui a promis la modernité, et la fibre optique, c'est une modernité parmi les plus grandes modernités, elle pourra nous aider en boostant les secteurs, en tapant régulièrement du poing sur la table, en sanctionnant, parce que Tati l'a dit tout à l'heure, la sanction n'est pas toujours au rendez-vous. Des gens qui ont fait de la RDC la risée de la planète de cette manière-là, qui c'est la coule douce et qu'ils peuvent nous narguer encore en cours de route en se prévalant des frais, des fonds qu'ils auraient puisés à gauche et à droite. Je pense que le chef de l'État a intérêt en ce qui le concerne présentement dans les cadres de ce projet de fibre optique de sanctionner pour donner l'exemple. La fibre optique, c'est la modernité, effectivement, comme a dit le compatriote. Les universités, des pays comme la France, des pays comme le Rwanda, il ne faut pas aller très loin, des pays comme le Rwanda accordent aux étudiants l'accès à Internet gratuit simplement parce qu'ils ont une connexion qui ne coûte pas cher et qui est de qualité. Ailleurs, dans les pays développés comme la France, on le fait, les universités sont exonérées de ces frais-là. Ils ne payent rien en termes de connexion. Pourquoi est-ce que nous qui avons encore des difficultés pour nous accéder au téléphone, pour accéder à Internet, ne ferons pas de même pour nous développer, alors que c'est à notre portée? On a mis de l'argent, 25 millions de dollars pour adhérer au consortium WACS, 12 millions de dollars de prêts auprès d'une banque commerciale et une assistance des Chinois. Avec toute cette addition, on devrait aller vite. Et aller vite pour moi, c'est que quand je suis chez moi, je suis en train de me connecter, que je puisse avoir Internet au débit. Ça s'est fait ici en Afrique, ça s'est fait en face, et chez moi que ça ne soit pas possible, ça fait mal au cœur, c'est un sentiment de dépit. Et aussi par rapport à la modernité, quand on va pour regarder comment les autres font, on va en Afrique du Sud, alors qu'une traversée de 5 minutes à Brazzaville, on pourrait voir comment les Congolais, eux, ils ont construit leur station d'atterrage pour nous en inspirer. Je pense que la modernité est encore très loin, de notre perception.
Alors, bienvenue Marie Bakoumania. Pour l'instant, la République sœur du Congo en face est connectée. Est-ce que la RDC pourrait envisager une connexion partielle, par exemple?
C'est une connexion partielle à partir du Congo-Brazzaville?
Ouais.
Ah non, je pense que ce serait même plus qu'une honte. Ils nous ont promis que dans deux mois, ils vont connecter la fibre qui est à l'océan, fuit à l'océan, à la station d'atterrage. Et puis, il y a encore 4 kilomètres pour faire parvenir la fibre ici à Kinshasa. Je pense qu'ils vont nous éviter cette honte en tenant cette fois-ci promesse et qu'au mois d'août, on soit connecté. Je pense que nous devons prendre notre mal en patience, en attendant que bon les consciences puissent se réveiller. Et visiblement, là, on est en présence des gens qui ont une conscience réveillée.
Mais Tati Nsongania tout à l'heure dit que techniquement, il semblerait que ce ne soit pas possible que d'ici le mois d'août, la RDC soit connectée. Mais on sait qu'en même temps, au mois d'octobre, il y a la francophonie, le sommet de la francophonie qui se tiendra ici à Kinshasa. Comment cela va-t-il se passer?
Bon, écoutez, je pense que la fibre est déjà sortie à Mwanda. Et il ne reste plus que la construction de cette station d'atterrage, c'est-à-dire c'est toute cette machine qui va recevoir la fibre qui vient de l'océan, qui va recevoir la fibre sur Terre. Et puis, il y a une distance de 4 km pour connecter la fibre au backbone qui va jusque ici à Kinshasa. Je pense que les travaux... J'étais à Mwanda avec le vice-premier ministre. Je m'étais déplacé personnellement, pas aux frais de l'État, évidemment, c'était à mes propres frais, pour voir ce qui se passait exactement là-bas. Et on a constaté que effectivement les travaux se font à un rythme inquiétant. Et là, je pense que Tati a raison. Les travaux se font à un rythme inquiétant. Quand on est en situation d'urgence comme aujourd'hui, on devait travailler de jour et de nuit. Visiblement, ce n'est pas le cas. Il y a même des travaux préparatoires parce qu'il y avait quelque chose qui était construit et on a détruit pour reconstruire. Les travaux préparatoires à la reconstruction ne sont pas encore achevés. On l'a vu, on l'a vécu sur place à Mwanda. Donc, peut-être même le 2 mois. À l'époque, déjà, ils disaient que ça serait le 9 juin. Ils avaient même avancé une date. Mais je me dis, dans 2 mois, c'est possible que l'on achève les travaux. Mais également, à ce rythme-là, au lieu de travailler, au lieu d'avoir 60 jours, 120 jours en travaillant également les nuits, au lieu de procéder de cette manière-là, on a préféré travailler seulement 2 jours. Ben, je pense que peut-être que d'ici la fin de l'année, on pourrait goûter aux délices, aux bienfaits de cette technologie de pointe.
Voilà, la réalisation me signale qu'on n'a toujours pas M. Placide Mbatika, administrateur directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT, qui avait donné son accord de principe pour participer à cette émission. Tati Nsongani, vous intervenez après cette réaction qui nous vient une fois de plus de Bukavu au sud Kivu.
Robert Baone de Bukavu au sud Kivu. Cette situation de retard de la RDC par rapport à sa connexion à la fibre optique ne m'étonne pas. Je ne m'y attendais pas le moins, d'autant plus que la RDC a toujours été le dernier, si pas le tout dernier pays dans la réalisation effective de tout ce qui est nécessaire à son avancement ou à son développement. Cela continue à dénoter le manque de volonté politique du gouvernement dans tous les secteurs pour satisfaire la population.
Réaction, Tati Nsongani. Merci. L'intervenant a ciblé, il s'appelle Robert Baouma, il a ciblé 3 faits. Il a dit qu'il n'est pas étonné parce que, deuxièmement, la RDC a toujours été le dernier de sa classe et qu'en troisième lieu, il a également épinglé le manque de volonté politique. Moi, je crois que c'est vrai, nous sommes en retard, mais ce n'est pas une fatalité. Nous n'avons pas encore bénéficié de cette connexion à haut débit. Faut-il rappeler que cette connexion, d'abord, permet un traitement rapide, plus rapide des données, parce que ça nous éviterait de traîner, parce que quand on est dans les cybercafés, on traîne. Et ça permettrait également, il faut le souligner, la baisse des coûts. Et ça, c'est important parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à mettre fin à la fracture numérique parce que les coûts d'accès à Internet sont encore élevés. Tout le monde n'a pas accès, notamment les étudiants dans les universités. Ils sont obligés de faire beaucoup de recherches. Une heure, parfois, coûte jusqu'à 2000 francs. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais alors, avec cette connexion à haut débit, avec la fibre optique, non seulement les informations sont transmises avec une grande rapidité parce que le débit est élevé, mais aussi les coûts sont faibles. J'aimerais aussi dire que pour ce qui est de la station d'atterrage, c'est juste un point de connexion. Ça, il faut le rappeler. Le câble, c'est 14 000 kilomètres de câble qui partent de l'Angleterre, de Londres. Et ces câbles longent les côtes africaines jusqu'en Afrique du Sud. Faut-il également rappeler que c'est la société MTN, à sud-africaine, qui est à l'origine de ce projet WAX, auquel ont adhéré, bien sûr, les pays et le gouvernement. J'aimerais également dire que ce projet va générer de l'emploi. On parle de 3500 emplois qui seront générés. Et nous sommes en pleine reconstruction. Le chef de l'État nous a parlé de la modernité dans la révolution. Je crois que c'est cela.
La révolution de la modernité.
C'est un peu la même chose. Moi, je n'aime pas trop les slogans, j'aime les réalités. Alors donc, on est en plein dans cette modernité qui doit se matérialiser, mais qui traîne. Donc c'est là que je rejoins notre intervenant quand il parle de volonté politique. Quand on est en retard, est-ce que le gouvernement n'avait pas un monitoring pour calculer à chaque étape et savoir si on est en retard ou pas, et dans le cas où nous serions en retard, comment veiller à corriger? Je vous dis aujourd'hui, monsieur le journaliste, je contredis le directeur général de la Société congolaise de postes et télécommunications, qui est, me semble-t-il, très optimiste. C'est normal, il vient de faire du tourisme en Afrique du Sud. Il ne peut qu'être optimiste. Nous ne le sommes pas. Il faut que l'on nous dise quels sont les moyens qui ont été mis à la disposition des opérateurs pour accélérer les travaux. Parce que nous sommes le seul, je dis bien le seul pays, sur les 14, les 13 ont déjà démarré. La RDC est le seul pays qui n'est pas encore commencé. Il faut que le gouvernement tape du poing sur la table, le Premier ministre doit taper du poing sur la table. Ça doit être une priorité, parce que ça n'est quand même pas normal. Le chef de l'État était le 5 mai à Nsanda, pour justement lancer ces travaux-là, espérons quand même que les moyens, parce qu'il s'agit en fait des moyens, que les moyens ont été mis à la disposition de la partie technique pour veiller à ce que l'on puisse aller dans le sens de la réalisation de ces travaux-là.
Mais Tatine Tsungani, il faut signaler aussi qu'il y a certains experts qui pensent que l'avènement du câble optique permettrait également de mieux gérer les appels provenant ou à destination de l'étranger pour mettre fin à la fraude sur le code 243. On se souvient que l'histoire, ce code, c'était également tout un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre de salive.
Oui, en fait, le système de la fibre optique est valable pour ce qui est de la transmission de données informatiques, mais de la télécommunication en général, c'est-à-dire la communication à distance. Mais quant au problème, au sujet que vous venez de soulever sur le code, moi je pense, et je pense même avoir répondu à cette question une fois ici, si ce n'est pas ailleurs, que la gestion du code obéit à la gestion générale ou à la transparence dans un État, dans quelque chose qui s'appelle État. Si la RDC peine encore à se faire appeler État, il est normal que l'on puisse vivre et subir ce genre d'inconvénients. Comment voulez-vous, M. le journaliste, qu'un code qui est la propriété d'un État et qui fait partie de sa souveraineté soit bradé à ce point-là? C'est un problème de gestion du patrimoine de l'État. Donc il y a encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, des responsabilités qui ont été clairement établies sur les chefs d'un certain nombre de gestionnaires de l'État. Mais qu'est-ce qui a été fait? Rien.
Voilà, la réalisation me signale que nous avons en ligne Monsieur Kabeyan Kachama Mutoke, ancien chef de division et sous-directeur par intérim à la Direction nationale Télécom. Il est actuellement consultant Télécom à Paris en France. Monsieur Kabeyan Kachama, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir, Monsieur Irunga.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons reçu un message de vous et vous acceptez d'intervenir. Vous êtes un spécialiste en la matière. Vous avez longuement traité ce dossier. Et évidemment, vous êtes très déçu et vous ne comprenez pas ce qui arrive à la RDC.
Je tiens d'abord à préciser que ce projet a été initié pour la première fois en 85 parce que je faisais partie de l'équipe qui avait mené cette étude dans le cadre du projet de la Banque africaine de développement. Malheureusement, il était question qu'on se connecte sur la station de Soyo en Angola. Donc, il y a eu des problèmes tout à fait compliqués. On n'est pas parvenu à lancer ce projet tel que ça a été projeté par la banque et puis par le secrétariat général Panaftel. D'autres précisions techniques, le backbone qui doit être connecté au réseau sous-marin, c'est un réseau de transport de la même façon que la station terrienne, comme on l'avait lancé. Ça permet de faire le transport en paquet, mais à côté de ça, il faut que le réseau local, c'est ce que je posais comme question pour savoir aussi, dans l'entretemps aussi, il y a un réseau local qui est en train d'être élaboré, mis en place ou pas. Donc, c'est un réseau de transport qui va permettre l'interconnexion du Congo au reste du monde, comme on le faisait avec la station terrienne, mais cette fois-ci avec l'avantage que le réseau fibre optique apporte la qualité, le haut débit et puis plusieurs applications qu'on ne pouvait pas avoir avec le réseau radio.
Monsieur Kachama,
je m'interroge sur des questions parce que je n'ai pas d'éléments de réponse. Est-ce que c'est un problème de maladie? J'ai suivi le journaliste du Potentiel qui parlait de ce qui s'est passé à l'époque de la création d'une société privée. Dans tous les pays, comme ici en France, souvenez-vous, en 81, quand François Mitterrand a été élu, le premier objectif qui s'était fixé, c'était de numériser le réseau des télécommunications de France. Donc, c'était la priorité du gouvernement. Je ne vois pas comment est-ce que, avec les investissements très lourds, parce que c'est un projet qui nécessite des investissements très lourds, que les sociétés privées qui cherchent la rentabilité à court terme puissent s'approprier ce projet. Donc cela revient de la responsabilité de l'État congolais. Le Congo en face l'a fait. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de déployer, parce qu'il y a un partenaire qui a gagné le marché, ils sont en train de déployer le réseau local pour pouvoir rentabiliser ce backbone. Donc, ma question que je voulais poser à Placide, que j'avais tenté de joindre la semaine passée, c'est de savoir quel est le problème, se situe à quel niveau. Est-ce que c'est au niveau de management, de projet, ou au niveau
des moyens,
de disponibilité financière?
Alors, Monsieur Kachama, vous restez en ligne, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
La Barbine Laro de Kinshasa. L'argument de la non-construction du point de connexion de la fibre optique avancée par l'OCPT est une preuve éloquente que notre pays est très mal géré. Comment expliquer que notre gouvernement puisse introduire pareil dossier de connexion qui engage l'avenir de toute notre nation sans une préparation préalable du point de connexion comme si cela tomberait du ciel? Quelle légèreté dans le rassemblement des éléments techniques concourant au dossier présenté. Et je me dis finalement, c'est flagrant et techniquement horrible.
Brève réaction, Monsieur Nkashama.
C'est ce que je vous disais dans mon mail, je n'ai pas des éléments. C'est-à-dire que normalement, ce point d'accès était prévu qu'il soit prêt au mois d'avril 2011, pendant que le bateau d'Alcatel se trouvait encore à Pointe-Noire en train de faire l'interconnexion. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ce point d'accès n'a pas été... C'est un pont normalement qui devait être construit, il y a un bâtiment, il y a les équipements qu'il faut y installer. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que ce point d'accès ne soit pas prêt? C'est la question que je me pose, je n'ai pas d'éléments.
Alors, Monsieur Nkashama, avant
de... Le compatriote qui vient d'intervenir, il a raison de se poser cette question-là.
Alors, Monsieur Nkashama, dans le mail que vous nous avez envoyé, vous dites également que d'après les informations en votre possession, les techniciens congolais qui seraient en formation à Pointe-Noire, à Brazzaville, sont sans moyens et vivotent.
Oui, ça c'est. Je vous dis qu'il y a la. Je suis partenaire avec la société Nitec Réseau qui déploie qui a gagné le marché sur une partie du déploiement du réseau local à Brazzaville. Il m'a appelé il y a deux semaines pour me dire mais qu'est-ce parce qu'il connaît Placide s'était déjà déplacé l'année passée à Brazzaville pour aller visiter nos matériels dans le local qui est à Brazzaville, juste en face du trésor de Brazzaville. Donc, l'ami m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe avec vos compatriotes? Ils sont en train de pivoter à Pointe-Noire. Donc, la question que je voulais savoir, est-ce que en les envoyant dans cette formation, parce qu'Alcatel est en train de former des techniciens qui doivent gérer ce POP. Donc, au même moment qu'on forme les techniciens de Congo-Brazzaville, on avait profité pour former les techniciens du Congo-Kinshasa. Alors, l'ami me posait la question, qu'est-ce qui se passe? Vos compatriotes sont en train de vivre ici, ils n'ont pas de moyens. Donc, c'est la question que je voulais poser à Placide. Est-ce que ces gens-là ont été envoyés à Pointe-Noire sans financement pour leur prise en charge ou les choses se passent comment? Comment est-ce que les choses sont gérées? C'est la question que je me pose.
Merci beaucoup, Monsieur Kabéan Kachama. Nous allons vous libérer. Merci beaucoup. Vous nous avez envoyé un mail et vous avez accepté d'intervenir brièvement en donnant toutes les précisions que nous venons de suivre. Je rappelle que vous êtes ancien chef de division et sous-directeur par intérim à la Direction nationale télécom. Actuellement, vous êtes consultant télécom à Paris en France. Il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Bienvenue, Marie Bakoumania. Peut-on espérer que la RDC peut rattraper ce retard?
Ben écoutez, il faut que la conjugaison des trois facteurs, comme je l'avais dit tout au début, soit effective. Si cette conjugaison n'est pas effective, si l'un des éléments du maillon n'est pas d'application, je pense que nous ne saurions pas nous connecter à la fibre optique comme on l'aurait souhaité. On a pris du retard simplement parce que les gens étaient en récréation, les gens se disputaient comment on va tirer des intérêts personnels pour à travers la gestion de la fibre optique. Il est vrai, le ring de Kinshasa est bouclé. À partir des Mwanda, le Premier ministre avait appelé Kinshasa et il avait eu à travers le ring qui est installé qui était installé par les Chinois. Vous savez que de Mwanda jusqu'à Kinshasa, les choses sont prêtes. Et ici même à Kinshasa, la boucle a été bouclée, comme on dit. Tout cela, c'était des préalables, mais la vraie question, c'est la station d'atterrage qui nous a mis dans la situation d'aujourd'hui. Si l'on débat aujourd'hui, c'est parce que la station d'atterrage n'a pas été construite. Et la station d'atterrage qui n'a pas été construite par la volonté de certaines individus, de certaines personnalités au sommet de l'État, il est temps, je pense que maintenant que il y a de nouvelles personnalités qui sont arrivées, il est temps que le professeur Kinkei, que la ministre du portefeuille, que le premier ministre, qui, j'ai dit en passant, avait également bloqué ce dossier lorsqu'il ne voulait pas garantir le prêt. Il a fallu qu'il y ait des pressions pour qu'il puisse garantir ce prêt. Il faut qu'il change de comportement pour que les choses puissent avancer.
Merci, bienvenue Marie Bakoumania. Je rappelle que vous êtes directeur du desk économie au groupe de presse Le Potentiel. Tatin Sungani, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire?
En guise de conclusion, tout ce que je peux dire, c'est espérer que cette fois-ci, étant donné que les responsables politiques qui nous avaient bloqués dans cette affaire ne sont plus là, que l'on mette suffisamment de moyens pour que finalement cette station d'atterrage soit opérationnelle, étant donné que, comme l'a dit mon ami bienvenue, que le ring de Kin est opérationnel et que la connexion à Kinshasa Mwanda ne pose pas a priori de problème, et qu'il faut seulement le point d'accès, comme on dit, c'est un point d'accès, un point d'arrimage avec le câble sous-marin,
sans oublier qu'il faut un réseau interne en plus.
Il faut aussi un réseau interne, et à mon avis il faudrait, et ça c'est vraiment un coup de cœur que je lance aux autorités actuelles, il faut que l'on restructure sérieusement les entreprises publiques, pas faire ce qu'a fait Madame Abunda, parce que ça c'est du n'importe quoi, parce que on va générer des moyens. Qui va gérer ces moyens? Avec quelle société? Merci. Avec quel management?
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Malheureusement, chers auditeurs et internautes, il y avait beaucoup de questions adressées à monsieur Placide Mbatika, administrateur, directeur général de la Société Congolaise des Postes et Télécommunications SCPT, que nous n'avons pas pu avoir dans cette émission, malheureusement. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, Kevin Kouté, Samuel Kachak, sous la supervision de Ben Kabamba, à la technique Sylvain Matumbu et Bob Landou, coordination et présentation Alain Irung Mouchinch. Au revoir.